être 17h tout de suite, le journal en français du studio Kalangou. À la présentation, je suis Rafika Taher. À la une ce soir, l'équipe nationale, le MENA A' s'est qualifiée hier soir pour les quarts de finale au championnat d'Afrique des nations de football CHAN Algérie 2023. Une qualification qui a suscité des réactions chez les supporters. Suivez dans ce journal quelques-uns rencontrés ce matin. Les bailleurs de fonds réunis à la troisième conférence de haut niveau sur le bassin du lac Tchad qui se tient à Niamey ont annoncé des aides en faveur des populations affectées par l'insécurité. La partie magazine de cette édition portera sur le développement socio-économique à Torodi à travers des cultures de contre-saison. Bonsoir à tous. L'équipe nationale du Niger, le MENA A', s'est qualifiée hier soir en quart de finale du championnat d'Afrique des nations de football CHAN Algérie 2023. Une qualification qui fait suite à sa victoire face aux Lions indomptables du Cameroun sur le score de 1-0. Suivons à cet effet les réactions de quelques supporters rencontrés ce matin à Niamey par notre reporter Salamatou Kadri.
C'est un sentiment de joie, de satisfaction qui nous animait depuis hier après le match. Ce qui est attendu, les joueurs ont fait le nécessaire et ce que vraiment nous attendons. Et je pense que c'est la joie de tous les Nigériens, que ce soit ceux qui sont ici au Niger, que ceux qui se sont déplacés pour aller les supporter en Algérie. Ça devient un autre aspect diplomatique parce que le sport quand même c'est un vivier qui fait connaître un pays. À travers donc ce qui s'est passé en Algérie, je pense que le Niger sera encore connu mieux qu'avant.
Je suis content. Cela redore l'image de notre pays. Avec un peu de chance, nous aurons parmi ces jeunes des professionnels qui iront jouer dans d'autres championnats. Remercions donc Dieu.
Comme tout Nigérien, vraiment, nous sommes fiers de cette victoire. Ça procure de la joie tant que Nigérien. On remercie le bon Dieu pour cette victoire et on les encourage à travailler davantage dans ce sens-là.
Le festival international Dokin Iskat Nfilingué a débuté dimanche dernier pour prendre fin le 29 janvier prochain. C'est une opportunité pour les femmes du Kourfey de faire la promotion de leurs produits locaux et de générer des ressources pour subvenir à leurs besoins. On les écoute au micro d'Abdoulaye Bagassa.
Nous avons apporté de l'huile d'arachide et ses tourteaux. Nous avons aussi de l'huile de nîmes qui soigne les infections. Nous avons également avec nous de l'huile de sésame qui a des bienfaits pour l'organisme. Elle soigne les démangeaisons et nourrit les cheveux. Nous espérons tirer profit de cette édition.
On nous a conviés à cette exposition. Toutes les femmes transformatrices sont présentes. Chacune, dans son domaine de compétences, présente son expérience. L'information nous est parvenue à temps. Nous nous sommes bien préparés. On a amené l'huile d'arachide, de coco et du sésame. L'édition passée a vraiment été une réussite.
On a apporté cette sorte d'huile. Nous participons à ce festival parce que nous avons des produits locaux à exposer et présenter aux participants. Une manière de montrer aux festivaliers ce qu'on transforme localement. Sur l'emballage de nos différents produits, nous avons mis nos contacts en cas de besoin.
Le bâtiment du musée des instruments de musique traditionnelle du Niger, dont le toit s'est effondré pendant la saison des pluies, est en reconstruction depuis quelques jours. Selon le directeur du Centre de formation et de promotion musicale CFPM Taya, ce musée serait aussi un centre de fabrication, d'entretien et d'apprentissage d'instruments traditionnels. Garba Mohamed Lawali explique au micro de Moussa Hassan et Assoumane Aboubakar.
Ça fait 3 ans que le toit du bâtiment abritant les musées s'est effondré. Heureusement pour nous que l'armature qui constitue les musées s'est fait en banco amélioré. Actuellement, nous sommes en train de reprendre des parties qui sont effondrées, la toiture, de manière un peu plus moderne vers là-haut, puisque là-haut, il faut protéger les bâtiments en tôle. Donc c'est un bâtiment qui a une superficie de près de 591 mètres carrés et qui contient 150 pièces d'instruments traditionnels, dont certaines datent de 210 ans. Beaucoup de documents d'archives sur la chanson, les jeux traditionnels, sur les films des festivals des semaines de la jeunesse, ainsi de suite. C'est l'État qui finance à 100% les travaux de réhabilitation. Certainement, les artistes ont beaucoup boudé, ils en ont beaucoup parlé. L'État a mis suffisamment de moyens pour les reprendre. Parce que pour nous, ce n'est pas un musée de contemplation, c'est un musée de recherche ethnomusicologique et d'enseignement. Nous voulons greffer à ces musées une unité de fabrication et d'entretien d'instruments traditionnels. Et aussi l'apprentissage pour les jeunes qui veulent apprendre à jouer des instruments traditionnels.
Beaucoup d'annonces et des engagements en faveur des populations du lac Tchad affectées par les exactions de Boko Haram à l'occasion de la troisième conférence de haut niveau sur le bassin du lac Tchad tenue à Niamey. Les bailleurs de fonds ont le devoir de travailler avec les organisations non gouvernementales locales pour l'efficacité des interventions, suggère Mara Mamadou Abdou, point focal des organisations de la société civile du bassin du lac Tchad. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
Nous sommes en temps de crue de la Komadougou et du lac Tchad. Donc il y a une limitation des mouvements des groupes terroristes. Mais tout de même, la situation humanitaire laisse à désirer. Les besoins des populations augmentent de jour en jour. Il y a eu des grandes annonces. Mais pour nous les OEC, ça ne suffit pas de faire des annonces. Il faut concrétiser. Notre grande attente, c'est qu'il y ait localisation. La localisation, qu'est-ce que c'est que de travailler avec les ONG locales, les ONG nationales qui sont sur le lieu, qui ont accueilli aux premières heures les déplacés, les réfugiés, mais aussi quand il y a une situation indésirable, quand il y a la protection, quand il s'agit de soutien psychosocial. Ce sont les ONG locales qui interviennent avec les moyens des bords. Il y a ce préjugé que les ONG internationales et les barres de fonds ont à l'égard des ONG nationales. Nous donnons la garantie que les ONG locales aujourd'hui sont à ce mur pour bien sûr recevoir l'argent, mais aussi bien gérer et faire très bien les interventions.
À Ngingimi, le prix du gaz domestique a doublé de 2500 à 5000 francs CFA la bouteille de 6 kilos. D'ailleurs, une pénurie est actuellement observée dans la ville. Les femmes et les hommes sont en file indienne devant le siège de la société distributrice du gaz. On écoute quelques clients rencontrés par Abdoulaye Maina.
Nous sommes venus acheter du gaz. C'est devenu cher et rare. On l'achetait à 2500. Maintenant, c'est à 5000. Le pauvre ne peut pas l'acheter. Et en plus, c'est très rare. Nous souffrons énormément. Que l'on veuille ou pas, nous allons reprendre la cuisine avec le charbon ou le bois.
Vraiment, il y a la rupture du gaz domestique à Ngigmi. Cela fait un long moment que le gaz a disparu des points de vente. D'autres font même la commande jusqu'à Difa, mais ils n'en trouvent pas. Par cet état de fait, aujourd'hui, les femmes utilisent le bois de chauffe, du charbon ou autre combustible. Et cela peut avoir des conséquences sur l'environnement selon les experts en la matière. L'appel que je lance, c'est à l'endroit du gouvernement qu'il trouve une solution à cela pour alléger la souffrance des femmes.
Le gaz domestique est rare ici à Ngingimi. Nous souffrons réellement de ce manque de gaz parce qu'on est habitué de travailler avec. Le gaz est cher et il n'est même pas disponible sur le marché. Vraiment, nous avons besoin d'une solution.
Soutenir les femmes entrepreneurs pour une économie inclusive et durable, c'est le thème d'une formation qui se tient au Centre culturel américain de Niamey. Sahabi Marie, une jeune femme entrepreneur, explique les avantages qu'elle pourra tirer de cette formation. On l'écoute au micro du studio Kalangou.
Je suis une jeune entrepreneur. Je fais le recyclage des bidons en pot de fleurs, pochettes, des bandanas, des trucs pour mettre les ustensiles de cuisine. Je fais aussi quelques activités génératrices de revenus. Je suis à cette formation pour acquérir plus de connaissances et améliorer ce que je fais. Cette formation va nous permettre de connaître plus de choses sur l'entrepreneuriat, comment gérer son entreprise et quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer et quelles solutions pour résoudre les difficultés. Ça va nous montrer de mieux connaître le domaine entrepreneurial et ce qui nous reste à venir. Car montrer, échanger et profiter des autres demeure une source intarissable d'enrichissement. Vraiment, ça tombe bien parce que là, j'ai déjà commencé mon activité et j'aimerais d'abord acquérir des connaissances pour savoir qu'est-ce qui m'attend devant.
Débutée le 16 décembre 2022, la campagne de vaccination du cheptel se poursuit dans le département de Madawa. Seulement, certaines difficultés sont apparues et freinent le bon déroulement dans certaines communes du département. Dr Seydou Alzouma, vétérinaire mandataire de la zone de Madawa, au micro de Hamza Noumaou.
Le démarrage s'est bien effectué. Actuellement, nous sommes à 40% de la couverture en termes de centres de vaccination. Et nous pouvons dire que tout se passe très bien, sauf que nous avons un petit souci, la rupture du vaccin contre la pasteurolose caméline, qui jusque-là, le vaccin n'a pas été disponibilisé. En dehors de ça, nous avons juste quelques réticences de certains éleveurs par rapport au marquage. Mais avec la sensibilisation, donc le problème est en train de se résoudre. Pour ce qui est de la zone d'insécurité, la commune de Bangui, qui fait frontière avec le Nigeria, nous n'avons pas encore commencé la vaccination dans cette zone parce que nous sommes en train de réfléchir sur une stratégie de mise en œuvre afin de pouvoir aussi vacciner le cheptel de ces personnes qui sont exposées.
L'entente intercommunale des départements de Djundjou et Gaya qui a vu le jour regroupe 9 communes des deux départements. Elle a été mise en place hier et vise une meilleure coopération entre les communes dans la mobilisation des ressources et l'entretien des routes rurales. Garba Nuhu, maire de Djundjou et président de l'entente, explique le fonctionnement au micro de Fadel Allou.
Nous nous sommes réunis dans le cadre de notre structure de concertation dénommée Entente intercommunale, regroupant 9 communes des départements de Djundjou et Gaya. Ces 9 communes ont décidé d'agir en synergie pour le développement de nos deux départements à travers des projets et autres activités socio-économiques sur les préoccupations locales, notamment l'entretien de nos routes. Aujourd'hui, les départements de Djundjou et Gaya vont donc œuvrer ensemble pour réparer et entretenir tout le réseau routier existant. Et plaise à Dieu, nous associerons aussi les autres maires et délégués pour enfin désenclaver complètement ces 9 communes.
Dans le département de Torodi, région de Tillabéri, la culture de contre-saison est pratiquée par les femmes et les hommes pour lutter contre la pauvreté et les mauvaises campagnes agricoles répétitives ces dernières années. L'exemple du groupement féminin Allawa Doudjam de Kobadje, composé de 54 membres, est une illustration. Suivez le reportage de Boubacar Seni.
Les 54 femmes membres du groupement féminin Allawa Doudjam de Kobadje exploitent un jardin mis à leur disposition. Elles produisent du moringa et de l'oignon. Grâce à cette activité, ces femmes subviennent à leurs besoins, entre autres la scolarisation de leurs enfants. Elles arrivent aussi à économiser et acheter des animaux. Hadiza Amadou, présidente du groupement.
Notre groupement a un jardin où nous cultivons du moringa et de l'oignon. Tout se passe bien. Nous vendons le sac de moringa à 6 500, voire 10 000 francs CFA. L'oignon, nous le stockons pour un temps. À la veille de la fête de Tabaski, nous vendons le sac à 35 000 francs CFA, ici à Kobagé. Grâce à cette activité, nous achetons les fournitures scolaires de nos enfants. Nous arrivons à subvenir aux petites dépenses. Parfois, on économise pour acheter des chèvres ou vaches. Nous sommes 54 membres. Nous exploitons ce jardin depuis 4 ans.
Les hommes de la zone cultivent des légumes qu'ils revendent sur place ou à Niamey. Selon Ahmed Belko, l'un des producteurs, la culture de contre-saison aide les populations à lutter efficacement contre les crises alimentaires dues à la mauvaise campagne agricole. Ahmed Belko.
Je cultive des oignons, de la tomate, des choux. Ces derniers temps, je mets seulement de la tomate et des choux. Nous gagnons beaucoup. Nous vendons ces légumes ici à Kobagé et à Niamey. Nous utilisons ces produits pour les besoins de la famille aussi. Cette culture de contre-saison nous permet de lutter contre la pauvreté et la crise alimentaire. Comme ces dernières années, les campagnes agricoles ne répondent pas aux attentes des producteurs, alors que le maraîchage que nous effectuons peut nourrir la famille durant 9 mois. Et a permis, grâce à certains d'entre nous, d'effectuer le pèlerinage à la Mecque.
D'autres personnes bénéficient des retombées de la culture de contre-saison. Il s'agit de revendeurs de légumes. Ces derniers gagnent dans ce commerce. Certains d'entre eux ont réussi à faire des investissements. Brahim Sadou, revendeur de légumes.
Nous ne cultivons pas, mais nous achetons les légumes chez les cultivateurs des tomates, oignons, poivres et piments pour revendre après. Cette activité nous a beaucoup profité. Il y en a ceux qui se sont mariés et d'autres ont acheté des voitures.
Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, place au journal en Tamachak présenté par Tarnan Foudé Ahmed à 18h15. Retrouvez-moi pour la présentation du forum sur l'impact de la consommation de la cigarette sur la santé. Studio
Kalangu à Difa,
Alternative FM 99.4 MHz à Zender,
Gaskia FM 89.5 MHz à Maradi,
Saraunia FM 102.1 MHz à Kyoto,
Bonferé Fuma 99 MHz. Studio Kalangu.